autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, en compagnie d'un formidable empêcheur de penser en rond, le physicien et philosophe de renommée internationale Carlo Rovelli, inventeur de la très prometteuse théorie de la gravitation quantique à boucle, un esprit libre et curieux, aussi féru de science que d'humanité, ce pionnier du monde quantique n'a pas son pareil pour élargir nos perspectives, en secouant au passage toutes nos certitudes et même nos incertitudes, notamment sur le temps. Et si le temps n'existe pas, à titre d'un de ses premiers ouvrages. Depuis, Carlo Rovelli a continué à s'interroger et à nous faire réfléchir autrement. Ses sept brèves leçons de physique ont connu un succès mondial, tout comme l'ordre du temps. Voilà qu'il nous revient avec ses écrits vagabonds qui viennent de paraître aux éditions Flammarion. Bienvenue donc pour vagabonder en sa compagnie depuis le bord des trous noirs, jusque sur les routes du Sénégal avec des papillons plein les yeux, autour de la question comment garder l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Bienvenue. Bonjour Carlo Rovelli.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité.
Quel plaisir, hein, vraiment, de vous recevoir et de suivre le cheminement de vos écrits vagabonds, de votre esprit libre et vagabond, qui nous entraîne avec évidence et étonnante simplicité au cœur même de tous les sujets et de toutes les grandes questions du monde qui vient. Un monde forcément quantique, on y viendra, car le physicien théorique que vous êtes, professeur à l'université d'Aix-Marseille, co-inventeur avec Limoline de la théorie de la gravitation quantique à boucle, est un de ceux qui font bouger les lignes, et pas qu'un peu, comme Einstein ou Stephen Hawking, que vous aimez citer. Vous êtes, Carlo Rovelli, un chercheur subversif, voire révolutionnaire, qui s'intéresse à tout, en amont un formidable empêcheur de penser en rond, et qui sait en plus nous faire passer tout ça. Alors d'où ça vous vient, Carlo Rovelli, cette formidable curiosité, cette ouverture, cette liberté d'esprit et de penser à côté aussi?
Merci beaucoup de cette présentation merveilleuse. D'où ça vient, je ne sais pas, j'étais curieux depuis toujours. Il y a un côté de moi qui a été toujours un peu rebelle. Je me suis rebellé quand j'étais à l'école. J'ai passé, comme beaucoup, une grande partie de ma génération, une période dans laquelle j'étais contre mes parents et je voulais faire tout le contraire. Voilà. Mais surtout, j'ai lu toute ma vie énormément et j'ai aimé voyager énormément et j'ai toujours eu l'impression qu'il y a quelque chose d'intéressant au-delà de la colline que je ne connais pas encore, que je veux aller voir.
Et effectivement, vous continuez à voyager, hein. Vous parcourez le monde aujourd'hui, vous continuez à lire, à faire de la physique et puis à lire, à ne pas séparer les humanités, comme on disait ou comme on pourrait redire aujourd'hui.
Oui, à différence de beaucoup de scientifiques, je cherche de séparer pas du tout. Au contraire, moi je trouve que la science peut avancer seulement si elle ne renferme pas en soi-même. La culture est une, l'autre, nos tentatives de comprendre le monde sont nourries par la science, par la littérature, par la philosophie, par l'art. Bien sûr, chacune dans des façons différentes, mais on apprend de toutes les disciplines et on apprend de toutes les cultures, de tous les gens. C'est en ouvrant qu'on va en avant.
En ouvrant les portes et les fenêtres. Alors dans ses écrits vagabonds, Carlo Rovelli, dans ce journal de bord qui reprend une série d'articles que vous avez fait au cours des dernières années pour les journaux notamment italiens, le premier chapitre s'ouvre sur un papillon magnifique, là où on ne vous attendait pas, auprès des papillons. Un papillon bleu au nom inattendu que vous avez admiré au musée d'histoire naturelle de Milan. Son nom, ce papillon bleu, c'est Vladimir Nabokov, c'est ça?
Oui, c'était une surprise pour moi. Donc ça, c'est un article qui est sorti d'une surprise. Beaucoup des articles de ce livre viennent de surprises. Moi, j'écris sur le journal, non pas comme métier, seulement de temps en temps, seulement quand il y a quelque chose que je pense puisse être intéressant pour quelqu'un d'autre, à raconter quelqu'un de découvertes. Surtout, ce sont des découvertes. Et là, c'était typiquement une découverte. J'étais à Milan, dans le nord de l'Italie, par hasard, et j'avais un peu de temps libre. Je ne sais pas pourquoi, je suis allé dans un musée et je vois ce papillon et le nom de Nabokov. Alors Nabokov, c'est l'écrivain russe qui a écrit ensuite en anglais, qui a écrit Lolita. Et Lolita, c'est un chef-d'œuvre absolu pour moi. Moi, j'ai toujours été sidéré par la beauté de la langue et pour l'intensité de l'histoire de ce roman absolu qui est au même temps un des plus grands romans d'amour de toujours et un conte d'une perversion, d'un crime finalement horrible. Et ce qui est subversif, c'est que c'est vraiment les deux choses en même temps. Parce que, surtout vu aujourd'hui, mais même alors, mais surtout aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est horrible. Mais en même temps, c'est du vrai amour, en même temps. Donc, c'est les deux choses ensemble.
En même temps, c'est comment concilier l'inconciliable aussi. Mais ce Nabokov, écrivain, auteur de Lolita, n'était pas qu'écrivain.
Je le découvre dans le musée que, finalement, pas seulement qu'il n'était pas que écrivain, ses ambitions étaient d'être scientifique et pas écrivain. Et sa science, c'était l'entomologie, étudier les insectes et surtout les papillons. Donc, il avait cet amour fou pour les papillons. Et il n'était pas très professionnel, mais il allait chercher les papillons, il les catalogait, il les étudiait. Et la beauté, c'est que finalement, les idées qu'il a écrit des articles scientifiques sur les papillons, que durant sa vie, ils n'ont pas été pris très au sérieux, mais après sa mort, on a découvert qu'il avait raison. Ses théories sur ce particulier papillon sont justes. Donc, il était un très grand entomologiste. Et finalement, maintenant, il a un papillon qui est intitulé à son nom, qui est très joli en plus.
Ce qui est un papillon bleu et qui, vous terminez ce chapitre en insistant aussi sur la capacité de voir la beauté. Et que c'est très important.
Parce que je me suis demandé, alors qu'est-ce qui fait que la même personne est en même temps un très grand entomologue et observateur de papillons et quelqu'un qui arrive à écrire de cette façon merveilleuse comme il écrit. Alors, il y a deux réponses. Il y a une réponse qui est la capacité d'observer. C'est quelqu'un qui regarde. Regarde, et regarder, ça veut dire regarder et voir ce que les autres ne voient pas. Donc, avoir la capacité de voir quelque chose de nouveau qui est là. Mais c'est plus que ça. Et à lire, et dans l'article que j'écris, j'ai copié un paragraphe entier écrit avec sa langue incroyable. C'est pas seulement qu'il voit des détails, il voit la beauté. Et la façon dont il parle de ce papillon, évidemment, et la façon dont il parle de Lolita, cette fillette de laquelle il était amoureux fou, se rassemblent. Mais il voit la beauté aussi de la nature, et je pense que ça, c'est la science profonde, voir la beauté de la nature.
Ça, c'est la science profonde. Il n'y a pas de science sans imaginaire. Vous citez aussi Stephen Jay Gould, Carlo Rovelli, et c'est encore plus vrai dans votre domaine de recherche. La gravitation quantique, le monde quantique, l'imaginaire, l'invention, l'ouverture sont absolument essentiels, indispensable. Vous êtes, on l'a dit, Carlo Rovelli, l'inventeur avec Lise Molin de la théorie de la gravitation quantique à boucle. Une théorie révolutionnaire qui, à ce jour, est la seule capable, peut-être, de réconcilier, de réunifier la physique, rien que ça. Comme nous l'expliquait ici même l'astrophysicienne Françoise Combes, professeure au Collège de France, où elle est titulaire de la chaire Cosmologie et Galaxies.
Oui, en fait, ça fait longtemps, ça fait un siècle qu'on essaie d'unifier la gravité et la mécanique quantique. Même Einstein n'y était pas arrivé. Et donc, je pense que la gravité quantique à boucle dont s'occupe Carlo Rovelli est une idée excitante qui, en effet, permet de voir qu'il n'y a pas d'infiniment petit. En fait, il y a des grains, des petits grains de Planck à 10-35 cm et ça ferait des boucles. Et entre les boucles, il n'y aurait rien du tout, même pas de vide, rien du tout. C'est très difficile de se le représenter. Et peut-être qu'en effet, il faudrait qu'il essaie de vulgariser un peu plus pour que peut-être le grand public puisse appréhender la nouveauté, la grande nouveauté de cette théorie. Et ce serait idéal, quoi. Mais je pense qu'il fait beaucoup de livres déjà de grand public et ses livres sont toujours passionnants.
Alors comment pourriez-vous, Carlo Rovelli, nous faire appréhender cette théorie de la gravitation quantique à boucle, Françoise Combes a essayé de nous expliquer, mais qui n'arrive pas à passer dans les esprits, c'est complexe, c'est complètement anti-intuitif. Et pourtant, vous faites passer beaucoup de choses très complexes, mine de rien.
Alors, d'abord, je le remercie. Il dit que je devrais vulgariser un peu plus. Je chercherai de le faire. Je cherche déjà de le faire. Alors, d'abord, je dois dire que ce n'est pas une théorie établi, certains. C'est une théorie qui, comment dire, n'a pas encore fait ses examens, ses preuves. Donc, j'espère que ce soit juste. Je pense que ce soit juste, mais je ne le sais pas. Personne ne le sait. Il faut attendre la science, ça marche comme ça. On a des idées, on les met sous forme d'équation. On les teste de façon théorique, mais il y a un moment où il faut les tester contre les expériences. Il faut que les théories prédisent quelque chose qu'on mesure. Et là, on commence à y croire, parce que sinon, on se trompe.
Donc là, on en est au stade de la théorie.
Oui, on a la théorie qui est plutôt bien développée. Alors, je ne vais pas dire c'est complète, mais c'est plutôt bien développé.
Et une théorie, juste une parenthèse, qui pourrait véritablement réunifier la physique et éclaircir, c'est bien le bon mot, les monstrueux mystères noirs, d'énergie noire et de matière noire. Donc, c'est vraiment énorme comme théorie. Expliquez-nous.
Ça, c'est lui demander trop. Moi, je pense que l'objectif qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, ce n'est pas arriver à la fin, expliquer tout. On va toujours avoir des mystères encore. Mais au cœur de la physique d'aujourd'hui, il y a un problème central qui est le fait que les grandes avancées du XXe siècle, donc la relativité d'Einstein d'un côté et la mécanique quantique de l'autre, ne se parlent pas bien. Et donc, on a un peu notre compréhension du monde brisée en deux, le monde de la relativité et le monde quantique. Et donc,
en gros, l'infiniment grand et l'infiniment petit, enfin, ou des échelles différentes.
Oui, aujourd'hui, la théorie quantique, c'est surtout utilisé pour l'échelle petite et les théories d'instant pour les échelles grandes. Et c'est pour ça qu'on peut utiliser les deux, parce que finalement, il y a peu de superposition, peu d'endroits, des régimes où tous les deux jouent un rôle. Mais il y en a. Et typiquement, les trous noirs, c'est un exemple, ou le début de l'univers, c'est un autre exemple. Et là, on n'arrive pas à comprendre les trous noirs. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé il y a 14 milliards d'années, parce qu'on n'a pas cette théorie. Donc, il y a des tentatives. Il n'y a pas que la gravité quantique à boucle. La gravité quantique à boucle, c'est une tentative. Il y a, pas moi, plein de gens qui travaillent maintenant. Et on cherche de mettre ces deux morceaux théoriques ensemble pour avoir un ensemble d'équations et une vision de la réalité, une compréhension de la réalité qui soit raisonnable, avec laquelle on peut peut-être comprendre que va se passer au centre de tout noir et qu'est-ce que s'est passé à l'univers.
Et pourquoi les boucles, la gravitation quantique à boucle permettrait de comprendre ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs?
Parce que quand un trou noir se forme, le plus souvent quand une étoile s'effondre sur elle-même. Donc il y a l'étoile qui s'arrête de brûler, qui sous le poids de soi-même, elle tombe sur elle-même et se concentre dans un espace de plus en plus petit, incroyablement petit. Il n'y a plus rien qui l'arrête. Et donc cette énorme quantité d'énergie, de matière, est concentrée dans des espaces beaucoup plus petits que millimètres, que milliardième de millimètres. Tout devient trop petit. Et à cette échelle très petite, c'est là où la gravité quantique devient très importante. Et comme disait justement ce texte qu'on vient d'écouter, c'est l'espace lui-même et le temps lui-même qui deviennent quantiques, qui sont quantiques à cette petite échelle. Et une façon de le voir, c'est de penser à l'espace. Ça, c'est la grande découverte d'Einstein. L'espace n'est pas quelque chose d'amorphe, de fixe, une espèce de table dans laquelle on se promène. C'est quelque chose qui a sa propre dynamique et donc qui a ses propres propriétés quantiques. Et un aspect typique des propriétés quantiques, c'est la granularité. C'est être fait des morceaux, des petits grains.
Ce sont des petits grains, ce n'est pas une masse, ce n'est pas une matière qui tiendrait tout seul. Ce sont des petits grains avec du vide, hein, c'est ça ?
Des petits grains. On y arrive. Alors, la lumière, par exemple, on pensait de l'avoir compris comme une onde électromagnétique, mais finalement, elle a des propriétés quantiques, ce sont des petits grains, ce sont les photons. Et donc, l'espace lui-même, on pense, doit être fait des petits grains, et ces grains sont très petits, et entre l'un et l'autre, qu'est-ce qu'il y a ? Non, il n'y a pas du vide. Et c'est ça le point crucial. Parce que du vide, c'est de l'espace vide. Mais l'espace s'est fait des petits grains. Donc, ça veut dire que c'est l'espace lui-même
qui sont des petits grains.
Discret. Donc, quand on dit un mètre, on est en train de dire un certain nombre de grains élémentaires. Et je peux diviser un mètre en deux parties, en quatre parties, de plus en plus petits, jusqu'en grains élémentaires, et c'est tout. Je ne peux plus le diviser plus que ça. Donc, il n'y a plus d'infini, plus d'infiniment petit. On s'arrête.
Au plus petit grain, si j'ose le dire de manière...
À l'unité originelle d'espace. Et l'espace est tissu par ces unités originelles. Et ces grains, il ne faut pas les penser comme rondes. Et ils sont attachés l'une à l'autre dans un certain sens. Dans les mathématiques de la théorie, on décrit, et donc on peut suivre, on peut sauter de l'une à l'autre et faire des boucles. Ils sont comme un tissu.
Tissés entre eux.
Ils font une structure. Et donc, les équations de la théorie décrivent cette structure qui n'est pas dans l'espace, mais l'espace lui-même vu à petite échelle. C'est un peu comme mon t-shirt. C'est que le t-shirt est fait de fils. Si j'enlève les fils, il n'y a plus de t-shirt. Donc, si j'enlève ce petit grain, il n'y a rien. Il n'y a pas d'espace vide.
Voilà une sacrément belle explication à méditer de cette théorie de la gravitation quantique à boucle, dont vous êtes l'initiateur avec Lise Molin, Carlo Rovelli, et qui permettrait peut-être d'expliquer un peu le grand mystère des trous noirs, sur lesquels il y a eu beaucoup d'avancées aujourd'hui, mais sur lesquels a beaucoup travaillé un pionnier que vous admirez énormément et dont vous parlez évidemment dans ses écrits vagabonds. Stephen Hawking propose d'écouter sa voix électronique due à sa maladie dégénérative qu'il a emportée. Stephen Hawking expliquait à sa manière les trous noirs, justement, sur la BBC.
Vu de l'extérieur, vous ne pouvez pas dire ce qu'il y a dans un trou noir. Vous pouvez jeter des téléviseurs, des bagues en diamant ou même vos pires ennemis dans un trou noir. Tout ce dont se souviendra le trou noir, c'est de la masse totale, du moment cinétique et de la charge électrique. La mécanique quantique implique que tout l'espace est rempli de paires de particules et d'antiparticules virtuelles, qui se matérialisent constamment par paires, puis se réunissent à nouveau et s'annulent mutuellement. Un membre d'une paire de particules virtuelles peut tomber dans le trou noir, laissant l'autre membre sans partenaire avec lequel s'annuler. La particule ou l'antiparticule abandonnée peut tomber dans le trou noir après son partenaire, mais elle peut également s'en échapper vers l'infini, où on l'aperçoit comme un rayonnement émis par le trou noir. Le message est que les trous noirs ne sont pas aussi noirs qu'ils semblent l'être. Ce ne sont pas les prisons éternelles qu'on pensait autrefois. Les choses peuvent sortir d'un trou noir, à la fois vers l'extérieur et éventuellement vers un autre univers. Donc, si vous sentez que vous êtes dans un trou noir, n'abandonnez pas. Il y a un moyen de sortir.
Il y a toujours un moyen de sortir d'un trou noir, l'humour de Stephen Hawking, mais aussi une forme de légèreté pour parler de ces sujets si profonds. Et là, on vous rejoint et on vous retrouve, Carlo Rovelli.
Je pense de savoir où c'était cette conférence qu'il a donnée, ou au moins il a donné la même conférence, c'était à Stockholm. C'était peu avant qu'il mourait, c'est la dernière conférence qu'il a fait, celle-ci. Et lui, il était venu, il avait parlé de ça. Et après, il avait fait une grande conférence grand public dans un théâtre de Stockholm, qui était un énorme théâtre, plein. C'était le plus gros endroit de Stockholm, le plus gros théâtre de Stockholm. Et il y avait plein de gens. Et il a parlé pour une heure, surtout des jeunes. Et les jeunes étaient complètement sidérés par sa personnalité. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est Stephen Hawking était un grand scientifique, sans doute. Et il a compris des choses très importantes sur les trous noirs, des choses sur lesquelles je travaille, beaucoup d'autres gens travaillent. Mais la chose incroyable, c'est qu'une grande partie de sa vie, il était sur cette chaise roulante, sans pouvoir même pas parler et ne pouvant communiquer à la fin que avec le mouvement des yeux. Il ne pouvait plus bouger le doigt, donc il ne pouvait plus manœuvrer son ordinateur avec le doigt. Et on lui avait monté une espèce de petite caméra qui
enregistrait
le mouvement des yeux. Et avec ça, il cherchait lettre par lettre sur l'ordinateur et composait des mots. Et j'ai eu une petite conversation avec lui et ça faisait une douleur de communiquer avec lui, parce qu'on voyait la difficulté énorme qu'il avait. Et quand même,
pour exprimer une telle pensée en plus, on va
quand même, il continuait à travailler et il était capable de parler à des milliers de jeunes et de les fasciner avec la beauté de la science, avec la légèreté. Donc moi, ce que j'admire de lui, plus encore que sa science, c'est sa force humaine. Il venait bien sûr d'un environnement un peu privilégié, mais il s'est trouvé dans des situations humaines très, très difficiles. Elle a montré que même dans cette situation très, très difficile, la force de l'esprit, la force de la pensée, la curiosité, l'envie de communiquer, d'être en contact avec le monde, et la légèreté aussi que vous dites. Durant cette conférence, il s'est moqué un peu de français aussi, je me rappelle.
Qu'est-ce qu'il a dit sur
nous ? Parce que quand il disait qu'on en a commencé à parler de trous noirs, les Français hésitaient à accepter cette image, parce que pour eux,
c'est pas joli.
Un peu trop sexuel.
C'est ça en plus, oui.
Et donc, il disait, ouais, vous savez comment sont les Français, ils pensent toujours mal. Et il parlait de la possibilité de sortir du trou noir. Mm-hmm. Que c'est exactement la chose qu'on est en train d'étudier maintenant. Donc, quelques années plus tard, dans mon groupe de recherche et dans d'autres groupes de recherche. La théorie d'Einstein a prévu les trous noirs. D'abord, on n'y croyait pas. Mais finalement, on s'est aperçu que c'était, les étoiles sont là exactement comme la théorie d'Einstein prévoit.
On a même pu les photographier.
Les photographier. Et c'est merveilleux parce que quand j'étais jeune à l'université, on n'y croyait pas au trou noir. Je me rappelle mon professeur de relativité générale. Je me rappelle mon livre écrit par Steven Weinberg, prix Nobel, très très grand scientifique, disait, bon, probablement il n'y a rien comme ça de vraiment dans l'univers. Mmh. Et maintenant, on sait que, pas seulement il y en a, mais il y en a un nombre énorme. L'univers est plein de trous noirs. Et ils sont là précisément comme le décrit la relativité générale. Presque. Parce que Stephen Hawking lui-même s'est aperçu qu'il manquait quelque chose dans la réalité générale. Parce qu'effectivement, il manque les effets quantiques. Et il a compris que les trous noirs sont chauds et sont toujours en train de mettre un peu de chaleur et donc d'évaporer, de devenir de plus en plus petites. Et donc, ils ont vu fini et non pas infini qu'on prévoit la théorie d'Einstein. Et donc, ils deviennent de plus en plus petites. Et ça, c'était sa grande contribution sur le trou noir de Hawking, de comprendre qu'il devient de plus en plus petit. Mais qu'est-ce qui se passe après? Quand il termine d'évaporer, il devient plus petit, et ensuite quoi? Ben, on ne le sait pas. Et la gravité quantique devrait permettre de comprendre ça. Donc, nous sommes en train d'étudier ça, vous voyez, en construisant sur les résultats d'Einstein, sur le résultat de Hawking, mais en cherchant de comprendre un peu plus.
Alors, vous n'êtes pas tout seul, hein, effectivement, à travailler là-dessus, sur cette question des trous noirs, de la matière noire, ce qu'il y a après les trous noirs. Vous êtes à l'heure actuelle tout de même le seul à proposer une théorie qui, pour le moment, tient la route, même si elle n'est pas prouvée, celle de la gravitation quantique à boucle. L'autre théorie potentielle, la théorie des cordes, est en train de perdre un peu du terrain, si j'ose dire. À ce sujet, une nouvelle question pour vous, soulevée par un autre physicien et philosophe que vous connaissez, Étienne Klein, qui était récemment notre invité.
Bonjour Carlo, j'ai une question à poser au physicien théoricien que tu es. Il y a quelques années, on a beaucoup entendu parler d'une théorie qui s'appelle la théorie des supercordes. Et cette théorie prévoit, entre autres choses, l'existence d'une symétrie qui s'appelle la supersymétrie, dont on ne voit guère de traces dans les expériences qui peuvent être menées, notamment au CERN à Genève, grâce aux grands collisionneurs de protons. Est-ce qu'à ton avis, c'est le signe que cette théorie des supercordes n'est pas le bon candidat pour unifier notre description des forces fondamentales ?
Votre réponse ou votre sentiment, Carlo Rovelli?
Ma réponse est oui. Je pense que la théorie des cordes a été une tentative très beau, très important de mettre tous ensemble, a fasciné beaucoup de gens. Elle a fait beaucoup de promesses. Promesses, merci, dans les années 80, et elle ne les a pas maintenues. Et la plus forte, je dirais, c'est celle auquel Étienne fait référence. Elle a prévu l'existence d'un certain nombre de particules supersymétriques.
Qu'on ne trouve pas.
Que tout le monde dans ce monde-là, dans ce monde de recherche-là, était convaincu qu'on allait voir à Genève avec le grand accélérateur de particules qui est LHC. Donc, il y avait plein de chercheurs dans le monde entier, pas seulement en France, qui étaient presque sûrs, pas sûrs, parce qu'en chercheur, justement, on n'est jamais sûr, mais presque sûrs qu'on allait voir apparaître ces particules supersymétriques. On a embauché des gens pour faire les calculs pour ça, on a donné des postes sur ça, on a investi. Et finalement, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là où on les cherchait. Alors, est-ce que cela veut dire que la théorie des cordes est fausse? Point. Non, évidemment. Parce que les choses sont compliquées. Mais est-ce que cela diminue l'aspect prometteur de cette théorie? Oui, sans doute. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui maintenant sont beaucoup plus douteux envers la théorie des cordes que non avant. Ce n'est pas que ça. Il y a autre chose. On avait une espoir de voir avec des expériences des astrophysiques des signes de la matière noire sous forme de certaines particules encore prévues par la théorie des cordes, et ça n'a pas marché. Et l'autre chose qui n'a pas marché, c'est que la théorie des cordes pour longtemps prévoyait une constante cosmologique négative. Donc l'univers en expansion, mais une décélération de l'univers.
Et
quand on est arrivé à le mesurer, c'est le contraire. C'est l'univers
est en expansion.
Et oui. Donc on s'attendait à une chose et c'est arrivé l'autre. Alors la science ne fonctionne pas à expériments cruciaux qui déterminent.
Mais c'est pas oui ou non. Vous avez un chapitre entre certitude et incertitude.
Oui, c'est jamais tranchant. on cumule des signes positifs et négatifs. Il n'y a eu jamais un moment où la théorie de Newton, d'un coup, est devenue vraie. Mais elle marchait. Et quand une théorie ne marche pas, il y a un certain moment où les gens disent, bon, on cherche d'autres côtés.
Et vous continuez de chercher d'autres côtés. Moi, j'ai rien envie de dire sur cette antenne, mais malgré tout, votre théorie de la gravitation quantique à boucle, elle reste évidemment à démontrer par les faits, par l'expérience, par l'observation. Malgré tout, elle pourrait un jour vous valoir le prix Nobel. En toute humilité, cher Carlo Rovelli.
Écoutez, il faut d'abord qu'il y aille, qu'il fait ses preuves. Donc, c'est sur ça qu'on est concentré. Il y a une partie de la communauté scientifique qui s'occupe des boucles, qui travaille sur l'univers primordial pour comprendre avec la théorie des boucles ce que se passait là. Et l'espoir, c'est de voir dans les astronomes qui peuvent voir des signes dans le fond de radiation cosmique, qui quelque chose de prévu par la théorie. Moi, je travaille sur le trou noir maintenant, la fin des trous noirs. Il nous semble que la théorie des cavités quantiques à boucles prévoit qu'à la fin de l'évaporation, comme je disais avant, un trou noir a une espèce de rebond et devient un autre objet qui est prévu par la théorie d'Einstein, qui est un trou blanc.
Après le trou noir, le trou blanc.
Voilà. Et le trou blanc, c'est...
C'est troublant, le trou blanc.
C'est un peu troublant, le trou blanc. Oui, mais pas trop. c'est aussi prévu par la théorie d'Einstein. Donc, ce n'est pas un objet très exotique. Et jusque-là, on a toujours pensé, oui, mais ça n'existe pas dans l'univers. Mais finalement, on pensait le même des trous noirs avant. N'existe pas. Donc peut-être ça existe.
Donc il faut toujours tout remettre en cause autour de la question comment garder l'esprit ouvert, justement, à tous les possibles. Carlo Rovelli, votre choix musical maintenant entre trou noir et trou blanc s'est porté sur une grande voie de la contre-culture. Ce n'est évidemment pas un hasard. Janis Joplin sur RFI pour notre plus grand plaisir, Me and Bobby McGee.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. When she slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Me and my Bobby again. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world.
La voix de Janis Joplin sur RFI, ça fait du bien par où ça passe, n'est-ce pas, Carlo Rovelli? C'est votre choix. Hein.
J'adore Janis Joplin et j'adore surtout cette chanson plus que tout.
Pourquoi ça. Vous savez pourquoi?
Parce que c'est l'aventure, parce que c'est la liberté, parce que c'est une liberté pas fausse, vécue avec énorme intensité et surtout avec sincérité totale. Elle souffre complètement. Elle montre l'intérieur de soi dans ça, avec toute sa faiblesse et cette mélange de douceur, de griffes, d'agressivité en même temps. C'est unique, c'est merveilleux et c'est un peu la vie comme je la sens.
Comme vous la sentez, comme vous la vivez, comme vous l'avez vécu aussi, vous parlez de sincérité, de subversion, d'esprit alternatif, ouvert à tous les possibles. Cet esprit, j'ai envie de dire quand même un peu révolutionnaire ou qui pense à côté, vous le revendiquez vous aussi avec une sincérité assez impressionnante. Dans cet ouvrage, écrit Vagabond, vous consacrez un chapitre au LSD et à votre usage du LSD que vous ne recommandez absolument pas, mais vous dites que quelque part, autour de la question comment s'ouvrir l'esprit, finalement, quelque part, ça a dû influencer et permettre une forme d'ouverture d'esprit jusqu'à pouvoir travailler et inventer une théorie de physique quantique, Carlo Rovelli.
Loin de moi, bien sûr, de dire qu'on prend de la drogue, on fait de la science.
Ouais, bien sûr, hein, c'est pas du tout ça le propos.
Non,
hein.
C'est pas du tout ça. Et au contraire, il faut être très sobre quand on fait les calculs. Et loin de moi de propagander des choses.
Bien sûr.
Absolument, c'est pas ça le problème.
Mais il y a aujourd'hui des recherches hein, sur
ces genres de substances-là psychédéliques, comme on les appelle, ont eu un moment de grand. C'était beaucoup de mode dans les années 70. Et finalement, avant, il était légal, il était propagandé, mais même par des gens, je me rappelle en Italie, c'était l'ambassadeur américaine qui parlait très bien de l'LSD comme façon de guérir de la dépression.
Aujourd'hui, d'ailleurs, ça revient. Il y a vraiment des chercheurs qui travaillent là-dessus.
Ça revient. Cary Grant, l'acteur célèbre, lui aussi, il a parlé en public plusieurs fois du fait que l'LSD l'a guéri de sa dépression. Donc, il y avait un moment où c'était légal. Après, c'est devenu trop populaire avec les jeunes et la société s'est un peu pris peur et l'a rendu illégal. Pas seulement illégal, mais c'est illégal, ça a été illégal pour des décennies, même y faire des recherches. Mmh. Et maintenant, ça reprend. Et les chercheurs sont en train ont eu le permis de recommencer. Ce sont des drogues qui ne donnent pas d'assuefaction et qui sont très fortes comme effet et ont un effet mental très fort. Et moi, je l'ai essayé peut-être 4 ou 5 fois quand j'étais jeune et ça a eu un effet très fort sur ma vie. Et ça a marqué quelque chose. Et je dirais parce que c'est comme regarder le monde d'une perspective complètement différente pour 7 ou 8 heures. Profondément différent, où la séparation entre soi-même et le reste, entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, entre l'extérieur et l'extérieur, tout est brûlé. Et c'est pas qu'on voit la vérité, c'est pas la vérité, mais on se rend compte que ce qu'on voit d'habitude, c'est pas nécessairement la vérité non plus.
C'est pas la seule vérité,
c'est pas la seule vérité. Il y a des perspectives différentes. Et ça m'a marqué profondément. Parce que ça m'a mis plein de doutes. J'étais jeune, hein, j'ai commencé très jeune. Et c'était un peu c'est mélangé avec les crises d'adolescents typiques. Quand on est adolescent, des fois, on se demande qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que est vrai, qu'est-ce que est faux, la société, j'y crois pas, les valeurs, j'y crois pas. Même les choses que je vois, elles sont différentes. Donc toute cette confusion adolescentielle et cette perspective de psychédélique ont laissé une trace avec moi. Et quand je suis devenu scientifique, beaucoup plus tard, 10 ans plus tard finalement, parce que je suis devenu scientifique lentement, c'était pas difficile pour moi de penser que finalement on peut changer complètement l'espace et le temps. On peut changer complètement le pensée de la matière. Je me sentais plus ouvert à quelque chose de différent. Donc, et ça m'a laissé une empreinte d'ouverture, je dirais. Je suis pas seul. Hein. Steve Jobs, le grand chef de Apple, qui est certainement, c'est lui qui a inventé la plupart de la technologie de Apple et de la façon de la présenter. Il a dit dans une interview que prendre les LSD dans sa jeunesse, c'était une des deux ou trois choses les plus importantes de sa vie.
Alors, je rappelle bien à nos auditeurs que ce n'est pas du tout un encouragement à ça, c'est juste pour dire c'est une manière de chercher, de trouver, d'expérimenter un autre rapport au monde, une autre perspective sur le monde, de le regarder autrement et de sortir un peu de nos limitations justement autour de la question comment garder l'esprit libre et ouvert. Carlo Rovelli, vous partagez aussi dans un tout autre registre, dans ses écrits Vagabonds, votre expérience au Sénégal où vous avez enseigné à l'Institut d'Excellence AIMS en sciences mathématiques et physiques à Mbour, non loin de Dakar. Vous nous racontez la journée de vagabondage, vous vous êtes accordé sur les routes moins fréquentées du centre du pays. On va y venir, mais avant de revenir sur ce vagabondage, le vôtre en terre d'Afrique, je propose d'écouter Carlo Rovelli pour vous rafraîchir la mémoire, le témoignage de deux étudiants parmi les 17 diplômés de ce printemps lors de la dernière session de juin 2019 à AIM Sénégal, à Mbour. On va écouter une jeune astrophysicienne kenyane, Eunice Monyenye Omoyo, et un jeune étudiant du Niger, Ibrahim Danjie. Remise de prix et émotion partagée.
Je me présente au nom d'Ibrahim Dandigé. Je viens du Niger. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi d'être gradué à M Sénégal. Ça a été une expérience inimaginable. Ça a été un cadre scientifique excellent. Pour l'avenir, je compte achever un stage de recherche qui va me permettre de m'inscrire au doctorat.
I came to African Institute for Mathematical Sciences.
Je suis venue à Ames avec une licence en sciences de l'éducation et j'ai eu une belle expérience au Sénégal. J'ai eu la chance d'interagir avec des chercheurs de renommée mondiale et de faire un projet dans le domaine de mes rêves, l'astrophysique. À présent, j'ai une bourse pour faire mon doctorat au Brésil en astrophysique, cosmologie et gravitation. C'était mon rêve. Je remercie Ames parce que l'astrophysique n'est pas tellement développée au Kenya. J'ai apprécié ma vie au Sénégal. Merci Ames.
And thank you, Ames.
Jolie, de l'importance de former, d'enseigner, de partager sa science du nord au sud, Carlo Rovelli.
Ames, c'est une très belle réalité. Le slogan de Ames, c'est la prochaine, le prochain Einstein.
Ou la prochaine Einstein.
Oui, oui, c'est ça. Le prochain Einstein va être une fille africaine.
C'est ça, voilà. C'est ça. Voilà.
Ce qui est un espoir de tout le monde. L'Afrique, c'est un changement très rapide, évidemment. C'est une réalité très, très complexe. Il y a de quelque chose entre... Il y a tout en Afrique qui va de ces écoles de sciences très avancées, très, très avancées, très pucées, des endroits de développement économique très, très vite, jusqu'à des gens qui vivent encore de chasse et de recueil comme avant le début de la civilisation.
Vous
mélange incroyable.
C'est ça. Et vous, justement, avec votre regard à vous, Carlo Rovelli, vous nous parlez à la fois d'un séjour en Tanzanie auprès d'une ethnie qui vit vraiment...
De chasse et de récolte.
De récolte.
Nomades sans agriculture, avant l'agriculture.
Et puis, vous nous parlez aussi, donc pendant ces quelques semaines que vous avez passées à Hambourg, à l'Institut Ames, une escapade, un beau jour,
oui,
sur les routes, où vous essayez de chercher une autre Afrique, enfin un autre contact avec le Sénégal que celui que vous avez dans cet institut d'amour,
oui,
à quelques centaines de kilomètres de Dakar.
Oui, à Aim, c'était très bien parce qu'il y avait des jeunes de tout le pays, mais c'était un peu les jeunes éduqués de l'Afrique. Donc j'avais envie de m'émerger un peu dans une Afrique différente. Donc j'ai pris une journée de, comme vous dites, une escapade à l'intérieur. Je suis monté sur deux bus comme ça, tout seul. Et je me suis promené à l'intérieur comme ça. Je suis arrivé dans des petits pays, des petits villages, dans l'Afrique pauvre, dans l'Afrique rurale, et je me suis immergé dans ça. Donc, un des chapitres du livre, c'est ce conte de tout ce qui se passe. C'était très intense, très fort. On voit tout le bien et le mal de l'Afrique, on voit la souffrance, et en même temps, l'Afrique est toujours... il y a toujours un enthousiasme, une passion, une intensité. Même quand je me rappelle, je suis arrivé dans ce petit village de Cavane, il y avait une petite école et le directeur qui me dit oui, là on a plein de problèmes, des fois les jeunes arrivent et ils n'ont pas mangé assez et donc ils ont des difficultés parce que, mais il y a toujours de l'enthousiasme, ils ont toujours envie d'apprendre comme ça. Et à la fin de cette journée, la raison pour laquelle je raconte cette histoire, qu'à la fin de cette journée, j'étais fatigué, j'étais sale, j'avais vu plein de choses dures aussi, de saleté. Le Sénégal, il y a des endroits qui sont une saleté incroyable. Et je suis revenu à Hambourg, et c'était soir, et j'ai décidé de voir la mosquée. Et c'est une grosse mosquée nouvelle, un peu rose, blanche, comme ça. Et on m'avait dit, bon, tu es blanc, c'est pas bien d'y aller, tu vas pas être bien regardé. Mais finalement, j'ai dit, bon, toute la vie, on m'a dit ne pas aller là, je suis allé. Donc, j'ai décidé d'y aller et je suis entré et les gens étaient en train de sortir. C'était la fin de la cérémonie là. Et je me suis rendu compte que d'abord, tout le monde me souriait. Et donc, tout le monde était... C'était clairement un signe de te bien accueilli ici. Donc, toute cette idée ne va pas que tu... C'était complètement absurde, faux. Mais je suis entré. Et alors, dans mon ignorance, je savais qu'il ne faut pas avoir les chaussures quand on rentre dans une mosquée, bien sûr. Mais je ne savais pas qu'il faut même non plus rentrer avec les chaussures dans la main. Donc, j'ai fait cette erreur. Je suis enlevé mes chaussures. C'était des sandales horriblement...
Pleines de poussière.
Pleines de poussière et sales. Je les avais dans mes mains et je suis rentré dans la mosquée comme ça. Et j'ai vu ce jeune qui vient vers moi, tout agité, et me parle en arabe. Moi, je ne comprends pas l'arabe. Et je me rends compte que j'ai fait quelque chose de faux. Donc, je sors. Mais à ce moment-là, il y a cet autre type qui arrive, souriant, avec une grande barbe, et qui dit quelque chose au jeune, et me fait signe que ce n'est pas grave. Il a un sachet de plastique, il met mes chaussures dans le plastique, et il me dit « Non, rentre avec les chaussures, ce n'est pas important. » Et je ne sais pas, c'était l'émotion de la journée, la fatigue, cette gentillesse, cet accueil, et cette chose, le titre de mon livre en italien, en français, c'est « Cri vagabonde », mais en italienne, c'est mon commentaire à ça. Il y a des endroits au monde où la gentillesse est plus importante que les règles. Et là, je l'ai senti très fortement. Et donc, je me suis assis dans cette mosquée. C'était parfaitement propre, clair, blanche, verte. Il y avait ce grand silence, ce sens de pureté et de vide de présence. Et moi, je ne suis pas religieux.
Vous êtes athée, vous le revendiquez.
Oui, je suis athée, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas dans l'islam non plus. Mais j'ai senti quelque chose d'intensité de l'humain qui se met devant le silence, devant l'absolu. Et j'ai senti une partie de l'Afrique très profonde, très vraie, qu'on ne voit pas, qui est là, évidemment, à côté de la saleté, de l'horreur de Ken Jevene. Et j'ai vu quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas du monde.
De l'humanité à en bas. Et si pour garder justement, regarder, observer cette humanité, pour garder l'esprit libre et ouvert, il fallait se rappeler justement constamment qu'on n'observe le monde que de notre point de vue, petit ou plus ou moins large, de l'importance de la place de l'observateur. Voilà un sujet qui nous ramène d'emblée à votre discipline, à votre recherche sur la physique quantique, Carlo Rovelli, avec tout de suite une nouvelle et probablement dernière question pour vous, soulevée par un autre éminent physicien quantique, passionné comme vous par la question du temps, qui n'existe pas vraiment, on le rappelle, pour les physiciens quantiques, Marc Lachaiseraie, qui était récemment notre invité.
Carlo, j'ai une question à propos de ton interprétation de la physique quantique, puisqu'il me semble que tu penses que la notion d'état quantique est relative à un observateur, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'état d'un système décrit par un observateur ne sera pas la même chose que l'état du même système décrit par un autre observateur. Donc c'est une idée qui me plaît assez, mais je me demandais où étaient les limites de cette idée et je me demandais si tu pourrais commenter là-dessus, c'est-à-dire par exemple si un observateur observe un autre observateur, est-ce qu'on peut parler d'une manière objective de l'état de l'observateur qui est lui-même observé ? Puisque selon qu'il va être observé par l'un ou par l'autre, sa description quantique est différente. Mais est-ce qu'il y a une manière de décrire son état de manière qui serait, disons, réaliste et objective ?
Quelle question de l'observateur observé oui. En physique quantique très importante, posée, donc soulevée par Marc Lachaiseraie pour vous, Carlo Rovelli.
C'est la question centrale que Marc soulève sur la mécanique quantique. Et il fait référence à deux choses. Il fait référence à la façon dans laquelle moi je vois la mécanique quantique et l'interprétation relationnelle, ce qui compte, c'est non pas les propriétés des objets, mais comment les objets apparaissent à un observateur. Mais un observateur, ici, ce n'est pas nécessairement un être humain, une caméra ou un ordinateur. C'est n'importe quel objet physique.
C'est-à-dire, pour qu'on comprenne un peu, qu'il n'y a pas de réalité totalement objective. Tout dépend de comment on regarde cet objet ou cette réalité. On pourrait le dire comme ça ?
Oui, c'est exactement comme le met Marc. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que quelque chose d'objectif reste ? Et la question est très profonde. Moi, je pense deux choses. Une, c'est que la mécanique quantique, qui est la plus grande découverte peut-être de la science moderne, on ne l'a pas encore compris, vraiment. On est en train de discuter.
Vous-même, les chercheurs, je ne parle même pas de nous.
Non, je parle des chercheurs et pas seulement les chercheurs en général. Ceux qui s'occupent plus de comprendre exactement ce que la mécanique quantique veut dire sur le monde sont ceux qui sont plus en confusion de tout le monde. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Peut-être chacun a sa propre vision, mais il n'arrive pas à convaincre les autres. Donc ça veut dire que comme communauté, on n'est pas encore arrivé à éclaircir. Ce que dans certains sens, c'est merveilleux. C'est-à-dire, la mécanique quantique marche très bien, fonctionne, on y fait les ordinateurs, on y fait les appareils médicaux, on y fait plein de choses, mais il y a un grand mystère encore là-dedans.
C'est pas pour vous déplaire, ça. Enfin, ça veut dire que ça.
Ça veut dire
ce
qu'il
mystère
y a encore,
contient énormément.
Il y a encore à comprendre. Il y a encore à comprendre. Moi, je pense, pour aller à la question de Marc, que effectivement, ce que la mécanique quantique nous dit, que c'est exactement ça. Il faut pas penser au monde comme un ensemble d'objets qui ont des propriétés. C'est pas ça. Il faut penser au monde comme un réseau de comment chaque objet se manifeste aux autres. Donc, c'est les réseaux de manifestation qu'est le monde, comme on le comprend. Pas, un objet isolé de comment il se manifeste aux autres n'existe pas. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas la bonne question. La substance avec ses propriétés, ce n'est pas la bonne façon de penser le monde. Le monde, c'est le réseau de comment chacun voit les autres, dans un certain sens.
Waouh, le monde, c'est le réseau dans
le
lequel comment chacun voit les autres. C'est
voilà.
Énorme comme
perspective. Je pense que c'est ça qu'on apprend de la mécanique quantique. Mais finalement, c'est aussi... Toute la science va dans cette direction. On ne comprend pas une gazelle sans penser au lion. On ne comprend pas la vie en regardant une cellule toute seule. Il faut la regarder comme elle se met en relation avec les autres. On ne comprend pas soi-même.
Si on n'est pas en relation avec les autres.
Ah oui, voilà, nous sommes la relation avec les autres. Nous sommes avec les relations avec le monde, parce qu'on réfléchit le monde. Nous sommes la relation personnelle entre les uns et les autres. Nous sommes la relation entre nous et notre mémoire, le passé. Donc, je pense que de plus en plus, toute la science et la mécanique quantique, là, c'est brûlante. Est en train de nous dire, regardez au monde en termes de relations, pas en termes d'entités.
Extraordinaire. Est-ce que ça a changé votre rapport au monde? Car Laure Ovelli, on arrive bientôt à la fin de cette émission et on ne peut pas aborder tout ce que vous abordez dans ces écrits vagabonds sur justement votre rapport au monde, à la planète, au changement, au monde qui vient. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça change votre manière d'être au monde là, maintenant, tout de suite? Avec nous ou sans nous, d'ailleurs.
je ne sais pas, parce que oui, de plus en plus, je me rends compte comment moi, je suis les relations que j'ai.
Moi, je suis les relations que j'ai.
Complètement. L'image de moi, c'est l'image de comment je suis réfléchi dans les autres et comment les autres sont réfléchis dans moi-même, comme ça. Mais en même temps, je ne sais pas, parce que moi, je suis en train de vieillir, comme tout le monde, donc je change aussi tout simplement parce que je suis plus, plus grand. Et la vie est changement, et le changement continue. Et c'est beau, ça. On gagne des choses, on perd des choses, mais on gagne des choses continuellement.
Merci infiniment pour tous ces changements dans nos manières de penser, Carlo Rovelli. Merci d'avoir fait escale dans notre studio pour nous ouvrir l'esprit. Je recommande vivement, vraiment, la lecture de vos écrits vagabonds, accessibles à tous, poétiques, inventifs, instructifs. Vous revenez quand vous voulez. Carlo Rovelli, c'est un plaisir, c'est même une joie de vous recevoir, puisque nous sommes, c'est ça que vous avez dit, les liens que nous tissons.
Voilà, les relations et les liens que nous tissons. Merci beaucoup.
Gravity, et c'est pour vous, Carlo Rovelli, un bluesman américain. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui.
Super.
N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio et sur Spotify. Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir et pour rester en lien. Merci pour votre écoute fidèle et attentive, chers amis auditeurs. Merci pour votre curiosité sans cesse renouvelée. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain jour.
Vous les avez entendus.